VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Un soldat français a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi au Mali dans un accrochage avec des terroristes lors d'une opération dans le sud-est de ce pays, ont annoncé les services de la présidence en France. Il s'agit d'un caporal chef du 6e régiment du génie d'Angers, dont le président François Hollande a salué le sacrifice. La mort de ce soldat porte à 17 le nombre de militaires français tués au Mali depuis l'intervention en Serval en janvier 2013, à laquelle a succédé en août 2014 l'opération Barkhane, étendue sur 5 pays selon un décompte de l'AFP. Mekoul Zadi, c'est le coordinateur de la campagne Tournant la page au Niger. Eh bien, il a été arrêté à son domicile hier mercredi. Il est accusé de concussion par le gouvernement. Issa Garba, secrétaire à l'information de la campagne Tournant la page internationale Niger, dit que les raisons de son arrestation résident ailleurs.
En réalité, c'est ça même la machination, sa démission à la CENI que le pouvoir n'arrive pas à faire passer à travers la gorge. Et il y a la plainte que récemment que nous avons déposée au niveau du doyen des juges du tribunal hors classe de Niamey par rapport à ces 200 milliards qui est une affaire que nous appelons Uranium Gate, impliquant des hautes personnalités de ce régime-là. C'est vraiment un trading illégal qui a été fait entre le Niger à travers la Sopamine et la France à travers Areva, où il y a eu une vente circulaire d'uranium qui s'est passée entre le Niger et la Russie, avec même des Arabes, où on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils vont faire réellement avec cet uranium dans cette période de terrorisme-là. Donc tout ça, là, ça fait partie des dossiers que nous avons soulevés. Donc Mekoul est au devant aussi de toutes ces actions-là. Et ils pensent que c'est à travers cette fausse concussion qu'eux-mêmes ont fomenté et de façon illégale et arbitraire pour pouvoir le soustraire parmi nous et pensant que c'est ça qui va ralentir nos activités, c'est ça qui va ralentir vraiment notre élan à amener la justice à faire véritablement son travail.
Issa Garba, secrétaire à l'information de la campagne Tournant la page internationale Niger. Crise au Bénin après le refus du Parlement d'examiner le projet de révision de la Constitution mardi dernier porté par le président Patrice Talon. Quel sera l'impact du vote des députés sur la gouvernance du président Talon? Suivez l'analyse du politologue Mathias Nkwe.
Il a quand même reçu un coup politique parce que, disons que la fragilité de son pouvoir a été révélée à travers ce vote. Il est venu au pouvoir avec une large majorité et avec une sorte de plébiscite, je vais dire en griffe, des citoyens. Et donc c'est la première fois que le Parlement lui refuse un vote. Et pour moi, c'est un coup politique pour lui, même si dans sa marge de manœuvre en tant que président, ça ne lui enlève rien. Il a normalement tous les pouvoirs qu'il faut pour gérer le Bénin, et donc il aura peut-être le regret de n'avoir pas conduit les réformes politiques comme il avait souhaité jusqu'à terme, du moins pas pour le moment. Mais à part cela, je crois que cela ne devrait pas être un obstacle pour lui dans la gestion du pays. Mais c'est peut-être le début d'une fronde politique que tout le monde attendait depuis longtemps, qui s'est réalisé le mardi soir, de mon point de vue, constitue peut-être le début des difficultés politiques pour le président Talon.
Le politologue Mathias Nkwe de l'OSIWA, l'initiative ouest-africaine pour les sociétés ouvertes. Élections législatives en Gambie aujourd'hui, les premières élections depuis le départ en exil de Yahya Jammeh, suscitant l'espoir d'un réel équilibre des pouvoirs après 22 ans de toute puissance de l'exécutif. En Gambie, le Parlement monocaméral compte 58 députés, 53 élus et 5 nommés par le président pour un mandat de 5 ans. Un peu plus de 886 000 électeurs sur près de 2 millions d'habitants doivent donc choisir leurs députés parmi 238 candidats issus de 9 partis politiques ou de listes indépendantes selon la commission électorale.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a annoncé hier la nomination dans les 48 heures d'un nouveau premier ministre pour diriger la transition, une décision qui, en l'absence de consensus, risque de plonger le pays dans une zone de turbulence. En annonçant la nouvelle au Parlement réuni en Congrès, M. Kabila a invité le rassemblement à la coalition créée par l'opposant historique défunt Étienne Tshisekedi a surmonté ses querelles intestines et a lui présenté une liste de candidats au poste de Premier ministre. Nous attendons que le président Kabila donne suite à la demande d'audience du président du Rassemblement pour discuter de la question du Premier ministre. C'est lui et sa majorité qui entretiennent la confusion, a ensuite commenté auprès de l'AFP Christophe Lutundula, un porte-parole du Rassemblement. Au Burundi, une vidéo circule sur les réseaux sociaux qui montre des Imbonerakure, jeunesse du parti au pouvoir, entonnant un chant qui incite au viol des filles et femmes s'opposant au régime de Bujumbura. Bujumbura a mis sur pied donc une commission de discipline pour déterminer les responsabilités afin que les coupables soient punis. L'opposition a pris position. Les détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
La vidéo authentifiée fait état des jeunes du parti Imbonerakure venus des différentes communes de la province de Kirundo au nord-est du Burundi pour se souhaiter les meilleurs vœux. Mais entre-temps, en t-shirt bleu et rouge, ces jeunes ont commencé à entonner des chants qui invitent les membres du parti présidentiel à violer les femmes et jeunes filles de l'opposition pour qu'elles mettent au monde d'autres Imbonerakure, ceux qui voient loin en français, proches du pouvoir. Pour la chargée de l'information et de la communication du parti CNDD-FDD, la chanson ne concorde pas avec l'idéologie et les mœurs du parti. Nancy Ninette Moutoni.
C'est une vidéo qui est de mauvais goût, qui circulait sur les réseaux sociaux. C'est dans notre responsabilité de condamner une vidéo véhiculant de tels messages, vu que ces messages sont contre les enseignements et les idéaux que prêche notre parti, et c'est contraire à l'idéologie du CNDD-FDD. Donc, nous devons condamner avec notre dernière énergie cet écart de langage, car après des enquêtes préliminaires, il a été prouvé qu'il y a une récupération politicienne de cette vidéo. Chaque fois qu'il y aura des messages contraires à l'idéologie, chaque fois qu'il y aura des messages non conformes même aux mœurs et aux cultures burundaises, nous allons condamner cela. Surtout, les jeunes de notre parti doivent être exemplaires.
Mais pour le président du parti Parena, parti pour le redressement national de feu président Jean-Baptiste Bagaza, l'avenir s'annonce radieux quand le parti au pouvoir commence à condamner de tels agissements. Zeno Michayenzi.
Ceux qui prônent la violence doivent être condamnés, même par le parti au pouvoir. Pour ce qui est des mauvaises attitudes, tout le monde doit parler le même langage, ceux de l'opposition comme ceux du pouvoir. Et a pris forte raison ceux du pouvoir parce qu'eux, ils ont mandat d'administrer correctement la population. J'acclame le geste. Et c'est à répéter avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être il est débordé comme d'autres l'ont été avant eux. Je pense au parti qui était au pouvoir dans les années 70 et au parti qui était au pouvoir dans les années 90, 13. Et eux aussi, ils ont été débordés. Ça m'étonnerait que ça ne soit pas le cas, même pour ceux d'aujourd'hui.
Pour les membres de l'opposition, les autorités politiques locales ont perdu partiellement le contrôle de ces jeunes qui sont souvent cités dans différentes violences armées sur les monts et vallées du Burundi profond. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Premier sommet entre le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping en Floride. Enjeu et perspective, Lionel Gaïma.
Les discussions seront plus difficiles dans la mesure où les États-Unis ne peuvent plus se permettre d'avoir un déficit commercial massif et des pertes d'emplois au profit de la Chine, a dit le chef de l'exécutif américain dans un message sur Twitter. Le président Trump. Je suis très impatient de le rencontrer avec sa délégation et nous verrons ce qui va arriver. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, est revenu sur les grands problèmes entre les États-Unis et la Chine. Tout, de la mer de Chine méridionale à la Corée du Nord, en passant par le commerce, des grandes questions nationales et économiques ont besoin d'être discutées. Il y aura beaucoup de choses sur la table pour les deux jours du sommet. Le président Trump a tenu des propos contradictoires concernant une seule Chine prônée par Pékin sur le statut de Taïwan. Aucun doute que les discussions seront suivies de très près ici aux États-Unis et de l'autre côté du Pacifique.
Le secrétaire au Foreign Office Boris Johnson a déclaré aujourd'hui qu'une résolution des Nations Unies condamnant la Syrie pour l'attaque chimique de mardi devait être votée avant d'entreprendre une éventuelle action unilatérale. Les États-Unis ont laissé entendre mercredi qu'ils pourraient envisager une action unilatérale en réponse à ce drame qualifié par Donald Trump d'affront contre l'humanité. Et puis les autorités russes ont arrêté plusieurs personnes soupçonnées d'être des complices de l'auteur de l'attentat suicide de lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg, rapport rapporte aujourd'hui l'agence Interfax, l'explosion a provoqué la mort de 14 personnes. Les services de sécurité du Kyrgyzstan ont annoncé mardi avoir identifié l'homme à l'origine de l'explosion, un ressortissant russe d'origine kirghize. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal dans 50 minutes, ce sera avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.